France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Le métier d'écrivain consiste à entretenir un feu qui ne demande qu'à s'éteindre. Mais l'écrivain, lui, est inaccessible au découragement. C'est son histoire, son livre et désormais son film à elle. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Un photographe à succès abandonne tout pour se consacrer à l'écriture et découvre la pauvreté. Le pitch est court, la volonté immense. Bonjour Franck Courtois. Cortez.
Bonjour.
À pied d'œuvre, votre livre raconte en fait le prix exorbitant de la liberté artistique. Elle a gardé le titre et raconte l'histoire en images. Bonjour Valérie Donzelli.
Bonjour.
À pied d'œuvre est un beau film qui traduit, dites-vous, la stupeur de devenir pauvre quand rien ne vous y a préparé. Au cœur de cette histoire, Franck, l'acteur qui vous incarne s'appelle Bastien Bouillon. À pied d'œuvre, sur nos écrans dès mercredi prochain. Enfin, les sorties de ce mercredi, Un gourou, une reconquête et La grâce de Sorrentino avec Tony Servillo, nous l'entendrons. Et on peut le dire maintenant, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
C'est au moment où j'ai épuisé mes économies, sans espoir immédiat de les renouveler, que j'ai pris conscience que je devenais pauvre.
Vous ne touchez pas d'indemnité chômage ?
Non.
Vous parlez l'anglais ?
Non, pas vraiment.
Des diplômes ?
Juste le bac.
Et vous avez 42 ans ?
Je suis prêt à accepter n'importe quel boulot, mais j'aurais besoin de temps à moi pour écrire.
Vous voulez un travail qui vous laisse du temps ? Bah, vous pensez à quoi ?
Je sais pas, gardien de nuit ? Dans un hôtel ou un parking ?
Ah non, on en trouve plus, ça.
Il était photographe, ça marchait plutôt très bien, enfin extérieurement. Intérieurement, il y avait un désir, celui d'écrire. Tout cela est raconté dans votre livre, Franck Courtès à pied d'œuvre. Pour accéder à cette liberté sans argent, beaucoup d'efforts physiques, des petits boulots éreintants pour un type pas préparé à cela. Et le réel a nourri l'écriture. Je disais, vous faisiez des photos. Petite question sur cette époque-là. Que recherchiez-vous dans ces photos et dans ces visages ? Vous recherchiez une vérité quand vous preniez ces photos, chez ces acteurs, ces musiciens ?
Oui, une justesse surtout,
oui.
Dans tous les cas. Pour les portraits, je m'étais habitué parce que au bout d'un moment, je photographiais beaucoup il est arrivé que je photographie beaucoup de chefs d'entreprise, des gens très sérieux. Qu'il fallait dérider, parce que moi j'avais la culture libée, les inrocs, donc quand je me retrouvais face à des PDG, c'était un peu compliqué. Et je m'amusais à essayer de retrouver en eux l'enfant, en fait. C'était le regard d'enfant.
Vous étiez un bon photographe ?
Bon, voilà, très bien. Bon, oui. Très bon, ça m'est arrivé. Excellent, non.
Je dis ça parce qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut croire en soi pour changer de métier et se plonger dans la littérature. Vous pensiez que vous seriez bon écrivain ?
C'est pas moi qui l'ai pensé, en fait. C'était dès que j'ai recommencé à écrire, en 2011, on m'a dit que c'était bon. Et moi, je fonctionne beaucoup à... J'allais dire presque la flatterie, c'est... mais l'orgueil fait que quand on vous dit que vous êtes bon dans quelque chose, vous vous dites « ok, je fais confiance, j'y vais ». On m'avait dit la même chose quand j'avais commencé la photo, sans que moi-même je ne m'en rendais pas compte. Et donc voilà, c'est une seconde chance de retrouver cette pommade apaisante où je me sentais bien.
En un sens, vous vous êtes photographié en écrivant.
Oui, un peu. Ou filmer, je ne sais pas.
Ou filmer. Valérie Donzelli, donc vous avez découvert ce livre. Vous voulez être approprié, en fait. C'était important de vous approprier ce livre. Et vous avez pensé à vos ascendants, à votre grand-père, à votre arrière-grand-père, qui avait eu des carrières empêchées d'artistes.
Ah non, pas empêchées du tout, parce que mon grand-père, il a vécu toute sa vie de son art, mais il en a vécu...
Mal.
Bah oui, en étant très pauvre, quoi. Donc, c'était à la fois une joie de pouvoir le voir épanoui toute sa vie à faire ce qu'il aimait, c'est-à-dire de la peinture, de la sculpture. Il avait ouvert une petite école d'art dans la ville où il habitait en Lorraine, qui s'appelait Saint-Miel, qui existe toujours, je crois. Et mon père, en revanche, a beaucoup souffert de cette enfance très précaire et très pauvre. Et son père l'a découragé de suivre une voie artistique en lui disant que c'était trop difficile. Donc moi, quand j'ai arrêté mes études d'architecture pour me diriger vers cette voie très incertaine qui est la comédie, il a été en colère, voilà. Mais juste pour revenir sur ce que vous disiez, je crois que quand on... Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a intéressée en faisant ce film et en m'appropriant justement le livre de Franck, comme vous disiez, c'est que je crois qu'être artiste, c'est pas une pause, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est un état. Et je pense en tout cas que Franck, quand tu te mets à écrire, tu te dis pas est-ce que c'est bon ou pas, ça te dépasse. C'est quelque chose qui est plus fort que nous. Moi, je me suis mise à faire des films, je me suis pas posé la question de savoir si j'étais bonne ou pas bonne, je suis passée à l'acte, quoi. Et en fait, la question du jugement de ce que l'on fait, je crois qu'elle nous empêche de faire, justement. Et quand on est dans ce feu presque sacré de l'art, on se juge pas tellement, on a à la fois cette confiance qui est plus liée à un besoin de faire, plus que cette assurance. Et en fait, cette confiance, elle est toujours liée de doute. Parce que quand on fait quelque chose, forcément, on se remet en question. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un endroit, en fait, où on a suffisamment la foi pour avoir la confiance de faire, sans forcément se juger au moment où on fait.
Il fallait aussi un contrat de confiance, Franck Courtès, entre vous et elle. Vous lui livrez, en fait, c'est vrai, vous livrez votre chair, votre vie. C'est vrai, c'est un sacré contrat, ça.
Oui, oui, mais tout se fait assez rapidement. Il suffit d'un rendez-vous, une conversation, les mots parfaits, et tout à coup, tout devient possible et évident.
Bah, c'est-à-dire que moi, j'étais tellement convaincue que c'était mon prochain film et je savais exactement ce que je voulais faire que je l'ai embarqué dans un espèce d'enthousiasme.
ouais, ça aurait été très difficile de résister.
Je vais comme ça, ça va être entre Sacha Guitry, ça va être entre Agnès Varda. Voilà, j'avais un film où je voulais qu'on entende le texte, je voulais que ce soit dit. Ouais. Et puis là, il me dit, mais les droits sont pris. Et là, je vais, oh ! J'étais complètement mais offusquée. Je ne comprenais pas comment quelqu'un avait pu avoir la même envie que moi.
Et alors, comment on fait dans ces cas-là ?
Eh bien, comment on fait dans ces cas-là ? Bah, déjà, donc il me dit les droits sont pris, c'est Alain Goldman. Moi, je ne savais pas qui était Alain Goldman. Donc, j'en parle à mon agent qui me dit bah, c'est très simple, on va l'appeler, on va voir. Soit il y a déjà quelqu'un qui fait le film, soit il s'en fout et puis il n'y veut plus, soit il cherche quelqu'un. Et donc, voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré Alain Goldman.
Et vous, il vous est arrivé d'être pauvre, Valérie Donzelli ?
Ah, bah, bien sûr.
Ouais.
Moi ?
Oui.
Bah, évidemment. Alors déjà, comme je crois en tout cas j'ai l'impression que quand on est dans des voies artistiques comme ça, on n'est pas très matérialiste, donc on met pas forcément d'argent de côté. Donc en plus, on gagne de l'argent de façon complètement anarchique. D'un coup, on en gagne, on a l'impression d'être riche. Puis après, on travaille plus, et puis on n'a pas mis de côté, donc on est dans la galère. Enfin, c'est un truc.
Mais
très...
il vous est arrivé d'envisager d'autres travaux, comme Franck Courtès le fait, parallèlement à son écriture.
Alors, moi, j'ai commencé, j'ai toujours travaillé en étant étudiante, quand j'ai arrêté mes études, j'ai toujours, toujours travaillé. Je travaillais l'été
pour me faire de la...
Ouais, j'ai toujours fait des petits jobs, j'en ai fait plein. Et donc, je sais ce que c'est que de faire des petits boulots dans la perspective de se dire ça n'est qu'un passage. Et puis un jour... Après, il se trouve que j'ai eu la chance aussi de faire des choses qui ont bien marché. Donc, en fait, depuis la guerre est déclarée, j'ai toujours réussi à joindre les deux bouts sans faire un autre travail à côté. J'ai jamais, et j'ai eu de la chance, fait des choses alimentaires liées à mon travail.
Parce que Franck Courtès, ça va bien maintenant, mais est-ce qu'il y a toujours cette peur derrière l'épaule de se dire « ça peut recommencer ».
Ah, j'ai jamais peur. Alors là, c'est un mot qui...
Ah oui ?
Non, non, jamais. Non, non.
Et vous n'avez jamais eu peur ?
Non plus. Non, non, bah non, sinon je serais jamais allé, je me serais jamais embarqué dans cette espèce de galère, d'aventure.
Oui.
Je l'ai fait sans... J'ai pas autant souffert qu'on le pense, puisque j'étais complètement inconscient et que j'avançais.
C'est ça, c'est de l'inconscience quelque part.
L'inconscience de la peur, oui, en tout cas, oui. Oui, oui, je suis prêt à y retourner s'il le faut, de toute façon, pour continuer d'écrire. Oui, oui.
Il est exposé, votre personnage et vous, Franck Courtès, à ce qu'on pourrait définir comme de l'esclavage moderne avec cette plateforme, on écoute l'extrait.
Si tu veux arrondir tes fins de mois et devenir jobber, clique ici. L'inscription et la publication des missions sont gratuites. Attention, avec 15 jobbers pour un client, la concurrence est sérieuse, tu dois être dynamique et motivé. Quelles sont tes compétences? N'oublie pas que tu seras noté, ça ne sert à rien de tricher.
Déménagement. Bricolage.
Et maintenant, regarde la caméra et présente-toi en 8 secondes. Sois souriant, donne confiance, c'est la clé de la réussite.
Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 42 ans. Bonjour, moi c'est Paul. Je suis soigneux, efficace et ponctuel. N'hésitez pas à faire appel à moi, merci.
Si tu ajoutes une photo, tu augmentes tes chances.
Il y a l'idée de déclassement, mais dans le sens inverse. Je veux dire, de performance, je veux dire, mais dans le sens inverse. Quoi. Le moins cher on est, le mieux on est.
Oui, je me souviens très bien le jour où j'ai rempli ce formulaire,
ouais.
Et où tout à coup il a fallu que je me vante,
ouais.
En disant que j'étais ponctuel, précis, souriant, aimable, et j'ajoutais des qualités comme ça les unes après les autres, et c'était assez amusant. Et puis surtout quand il a fallu que je coche les compétences alors que je n'en avais strictement aucune. Et là j'ai tout coché. La seule compétence que j'ai jamais pu faire, c'est promeneur de chien, parce que c'est le seul. On nous demandait une assurance, enfin un truc supplémentaire. Bon, ça, j'avais pas. Mais pour tout le reste...
Pour assurer le chien.
Pour assurer les gens qui pourraient être mordus par le chien, etc. En revanche, le transport de personnes qui est du taxi clandestin, alors là, la moindre enquête sur mon permis, sur l'état de la voiture, rien.
Il s'agit d'une idée de déclassement, Valérie Donzelli, c'est-à-dire que le personnage ne se... Alors, il se bat pas contre la précarité, il l'a subi.
Alors oui, en fait, juste pour revenir, je trouvais ça intéressant ce que disait Franck sur le fait de ne pas avoir peur.
Ouais.
En fait, il n'a pas peur parce qu'il est libre. En fait, il est à l'endroit de sa vérité. Et je crois qu'à partir du moment où on est honnête avec soi et qu'on n'est pas dans le mensonge de sa vie, on supporte beaucoup de choses, quoi. Mmh. Et ce qui fait qu'il supporte ça, c'est aussi cette foi de l'écrivain. Mmh. C'est-à-dire que ça permet de tout supporter. Et à un moment donné, tu le dis dans le livre, c'est très beau, quelques pages, deux ou trois pages écrites le matin... permet de combler la journée et on est heureux toute la journée. Et moi, je sais que c'est pareil, quand j'écris, quand j'ai une idée de film, je me lève très tôt le matin, j'écris, et puis je suis toute contente, j'ai l'impression d'avoir fait tout mon travail de la journée, et puis après, je peux supporter les galères et tout, je suis dans mon film, en fait, je suis dans mon imaginaire.
Le portrait de l'homme, c'est aussi un portrait de la France, sans faire un film social, mais c'est une France pauvre.
Oui, c'est surtout quelqu'un qui débarque chez des gens qui sont plus ou moins déprimés, plus ou moins riches, plus ou moins drôles, plus ou moins tristes. C'est un peu le grand rendez-vous citoyen, puisque tout le monde participe à ce système aussi.
Tiens, justement, à propos de gens riches, on va écouter cet homme qui vous engage pour nettoyer sa terrasse et les buis de sa terrasse.
Vous avez fini, ça y est ?
Ouais. Je vais descendre les sacs, si vous voulez.
Ah oui, je veux bien, merci, ouais.
Vous avez une vue magnifique.
Ouais. Et derrière ? Vous avez pas fait derrière ? Le balcon fait un angle, vous avez pas vu ? Attendez, faites le tour, s'il vous plaît, je vous montre. Je l'ai mis dans l'annonce, 16 jardinières.
Je suis vraiment désolé.
Moi, j'en peux plus de ces buis, ils me dépriment. Écoutez, vous êtes là pour gagner de l'argent, non ? Je vous paye double.
Vous êtes allé sur le tournage, Franck Cortès ?
Oui.
Ça vous a fait quoi ?
Oh la première fois, j'étais en retrait, je n'osais absolument pas déranger les équipes. Donc j'étais dans l'ombre, et puis j'ai vu Bastien utiliser mes mots, faire mes gestes. Parce que toutes les scènes de Petit Boulot sont extrêmement bien reconstituées. Moi-même, j'avais tenu à ce qu'elles soient toutes vraies.
Parenthèse.
Oui.
Il dit un truc très intéressant. Ça a l'air très superficiel comme ça. Bastien Bouillon dit que les sacs étaient vraiment chargés. Non, mais c'est très important parce que parfois au cinéma, on voit des gens porter des valises, on a l'impression qu'il y a du coton dedans.
Ah oui.
Et non, mais c'est important.
Cinéma, oui.
C'est pas un détail anodin.
Les buis étaient profondément ancrés dans la terre.
Les miens
Les vôtres, ouais. Oui.
Ah, les miens, c'est une horreur.
Oui.
Et quand j'entends de nouveau le dialogue, c'est là toute la finesse, enfin la compréhension de Valérie, c'est qu'elle a réinterprété des choses qu'elle ne savait pas. Mais par exemple, quand il dit « vous avez une magnifique vue
oui. »,
moi j'étais dans une... Quand j'avais fini mon travail, j'avais l'espoir de me réintégrer un peu dans mon ancienne classe sociale et donc lien d'amitié avec la personne en lui tendant une petite perche pour lui dire vous savez alors dans le livre c'est je vois le clocher de l'église qui est à côté du lycée Henri IV. C'était des petites pistes comme ça pour que les gens me disent « Ah, vous étiez Henri IV, mais qu'est-ce que vous foutez là ?» J'avais envie quand même que les gens se rendent compte.
Et en fait, non.
Pas du tout.
C'est ça qui est fou.
Là, c'est super bien dit dans le truc. Bon, bah allez, vous n'avez pas vu derrière.
Oui, il s'en fout qu'on lui parle de sa vue, puisque lui, ça n'a rien d'exceptionnel pour lui.
Non.
Il la voit tous les jours.
Il n'a qu'une envie, c'est qu'on enlève les buis. Ça,
c'est son problème. Mais d'ailleurs, ils ont chacun leur problématique et je ne les juge pas du tout. Enfin, le film ne cherche pas, ne dénonce rien. C'est juste une observation du monde et de ce personnage qui, parce qu'il est aussi à l'endroit de l'écriture et porté par ce désir-là, est un observateur. Et j'avais aussi envie de raconter l'écriture sans montrer l'écriture. Et c'est pour ça que tous ces subjectifs sont filmés en Super 8, comme une sorte de mémoire artistique de choses dont il se nourrit.
On pense aussi à l'histoire de Souleymane, parce que ce serait quelqu'un d'un ex-nanti qui raconterait ça, donc c'est un autre regard là-dessus.
Oui, alors moi, quand j'avais vu d'ailleurs l'histoire de Souleymane, j'étais super contente parce que je trouvais le film magnifique et tout. Je l'avais vu à Cannes et j'étais en train d'écrire avec Gilles Marchand à pied d'œuvre. Et j'étais hyper contente parce que moi, je savais que le film que je faisais n'était pas du tout la même chose et pas du tout au même endroit. Et que mon héros pouvait rencontrer des Souleymane.
Bien sûr.
Mais qu'il n'était pas Souleymane et qu'il le savait.
Mais il leur donne la parole en même temps.
C'est surtout qu'il les regarde. Il a été au même endroit qu'eux, tout en n'étant pas eux. Et ça, c'est très important de le dire. C'est-à-dire que le personnage de Paul Marquet le dit, je ne suis pas comme eux. C'est mon choix d'écrire. C'est moi qui ai décidé de tout arrêter pour me mettre à écrire. Et c'est juste que j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre de ce métier.
Il y a une autre option, ça serait Le Quai de Ouistreham de Florence Obna, qui est devenu un film. C'est pas pareil, là, parce que c'est une femme qui se fait passer pour, en sachant très bien qu'elle va revenir dans son monde le soir.
Oui, mais enfin, ça manque pas de courage non plus. C'est-à-dire, c'est...
Ah, vous trouvez ?
Ah, c'est quand même s'engager et aller au front pour décrire la même guerre qui est faite aux gens pauvres. Donc je trouve ça assez courageux d'aller quand même se confronter en première ligne pour le raconter à ses semblables, hein, les gens qui lisent, etc. Moi, c'est vraiment le témoignage d'un bombardement à l'arrière. Hein, c'est-à-dire que je ne me suis pas du tout engagé dans la pauvreté par choix pour raconter quoi que ce soit. Donc c'est pas du tout le même traitement, mais c'est la même catastrophe économique.
Ouais, et le rapport à l'argent est super intéressant. Vous dites tout d'un coup, avant vous receviez de l'argent sur un compte, et voilà. Là, ça devient physique, l'argent.
Oui, le premier billet, c'était très émouvant. Je l'ai gardé dans la main, je ne le mettais même pas dans la poche, je le serrais dans le poing et je le regardais de temps en temps comme si j'avais trouvé le billet par terre. Et c'était 20 euros. Et alors que quelques années auparavant, je pouvais gagner 5000 euros sur une image. Et je ne m'en rendais absolument pas compte. Ça arrivait sur mon compte.
Vous disiez, par exemple, je fais une bonne interview de Tom Hanks. Je ne vais pas m'acheter un repas après parce que j'ai gagné cette interview, enfin une photo.
Je ne faisais aucun lien entre le travail et ma survie, l'alimentaire. Alors que là, je suis arrivé dans une espèce d'économie où il y a un lien très très fort entre l'effort qu'on a fourni et la récompense, c'est-à-dire acheter du riz, acheter un peu à manger. Quoi.
Ouais. Le travail est aussi essentiellement dans le montage, Valérie Donzelli, c'est très important. Ça a l'air d'être limpide ce roman comme ça, mais vous avez fait votre propre construction.
Oui, alors c'est vrai que le montage de ce film a été très important. Je l'ai toujours su. D'ailleurs, je disais à Pauline Gaillard, la monteuse, ça va être un film de montage, on va bien s'amuser. Et ça n'a pas loupé. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que pour la petite anecdote, c'est Pauline qui m'a donné le livre. Elle venait de le finir. Et elle m'a dit, c'est pour toi. Et moi, j'étais moi-même dans une crise un peu comme le personnage de mon film, finalement, au moment où j'ai récupéré ce livre.
Oui.
Et elle m'a dit, ça va te plaire, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et je suis repartie avec le livre, elle avait marqué à l'intérieur, à l'œuvre Bibiche, parce que c'est notre petit nom, parce qu'on est amis. Ça fait 19 ans qu'on se connaît, elle a monté presque tous mes films. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a plu, c'était comment raconter. Alors, en fait, ce qui me plaît quand j'adapte un livre, c'est vraiment d'essayer de l'interpréter presque comme un acteur, un rôle. C'est-à-dire d'essayer de retrouver avec mon film les sensations que j'ai eues en lisant le livre. Et c'est vrai que je suis passée par toutes ces couleurs, de la tristesse, du questionnement, de la drôlerie. Et le film, ce qui m'a plu, c'était ce défi aussi par la mise en scène de raconter quelque chose qui n'est absolument pas spectaculaire. C'est-à-dire quelqu'un qui, pendant une heure et demie, n'arrive pas à écrire quand même. Et travaille. Et j'avais envie de montrer le travail à tous les endroits, que ce soit celui de l'écriture, le travail manuel... Et aussi mon travail de cinéaste, qui est de raconter par la mise en scène et les images un livre qui parle du travail à tous les endroits.
Et ce choix que vous faites, les autres vous le renvoient, Franck Courtès, comme s'ils vous renvoyaient leur névrose, du style il fait froid dehors, quoi, pourquoi tu quittes ça ?
C'est-à-dire qu'ils se trompent de reproches. Ils me reprochent d'être dans la difficulté, d'être pauvre, alors qu'en fait, ils devraient me reprocher d'abord d'écrire, tout simplement. Mais ça, ils ne peuvent pas se le permettre. On ne peut pas empêcher, on ne peut pas dénigrer un métier aussi beau. Donc il y a un malaise, oui, c'est que finalement le livre raconte le prix exorbitant de cette liberté artistique. Alors on peut faire de l'art sans liberté, hein. les peintres qui travaillaient pour les églises ont fait des très belles choses et ils n'étaient pas vraiment libres, hein. Moi j'ai exploré vraiment la liberté totale d'écrire et je décris ce prix. En fait c'est un gros ticket de caisse, quoi, mon livre, hein. c'est la facture, quoi.
Alors, comment t'en es arrivé à faire ces boulots-là ? Enfin... Non, je veux dire, t'es intelligent, et il y a mille façons de gagner de l'argent. Enfin, tu pourrais donner des cours ou des conseils. Ça paye bien. Excuse-moi, hein. Ah, je suis comme tout le monde, hein. Je suis pris dans l'engrenage, j'ai un bon boulot, un gros salaire, une belle maison. Hyper consommation, quoi. Toi, tu décélères. C'est bien.
Bastien Bouillon est plus jeune que Franck Courtès. C'était un choix, évident, parce que vous aimez cet acteur et que...
Oui, d'ailleurs, au début, ça m'a un peu... quand j'ai pensé à lui tout de suite, j'avais peur qu'il soit trop jeune. Et puis finalement, il s'est avéré que j'ai trouvé que c'était plus fort encore. Qu'il soit plus jeune, ça a rendu son choix encore plus politique.
Vous avez été troublé en le voyant, Franck Courtès, en voyant
Bastien.
En vous voyant.
Alors oui, très. Sur le tournage, j'ai carrément pleuré, hein, discrètement. Ah ouais. Oui. Bah oui, parce que je sortais.
De vous voir. C'est ce que vous avez
voir,
pleuré.
Oui, de voir toute cette énergie autour de mon histoire. Il y a un truc qui est complètement absurde et féerique en même temps. Donc oui, j'étais ému aux larmes. Ensuite, le film, ça a parfois même révélé des choses que je n'avais pas entièrement analysées de mon livre.
Comme
l'aspect le plus politique, l'aspect psychologique aussi du personnage. Moi, c'est un témoignage qui est assez brut, finalement, je trouve. Et de le voir filmé, de le voir filtré par une autre intelligence au sens... vous voyez ce que je veux dire. ça m'a donné une nouvelle lecture, un peu plus approfondie. Et je me suis mis à aimer encore plus ce texte, qui au départ était pas... qui est un texte que j'aime autant que les autres. Maintenant, c'est vrai que je me dis, oui, j'ai réussi quelque chose... presque, malgré moi, de plus fort qu'à d'habitude.
Est-ce que c'est comme une deuxième porte qui se ferme ou qui s'ouvre ? Alors, vous voyez, le livre et maintenant le film.
Les deux. C'est-à-dire que moi, ma vie, la vie d'avant, la porte se ferme, je trouve.
Oui.
En tout cas pour une période. Et puis, oui, il y a effectivement une porte qui s'ouvre sur... sur la possibilité d'être adapté au cinéma, c'est quand même vertigineux pour un auteur. Parce que,
faut pas trop y penser pour la suite en même
temps. Faut pas y penser, mais quand même. Savoir que ça existe, que c'est possible, que c'est extraordinaire. Parce qu'évidemment, en littérature, on ne gagne quasiment rien. Hein, on gagne 1,50€ par exemplaire vendu. Donc, en fait,
faut le dire. C'est une situation quand même.
Et quelques centimes sur le folio. Hein. Oui. Bon, je critique pas. Je dis qu'il y a une anomalie quand même.
C'est une réalité.
Et c'est vrai que la respiration qu'offre le cinéma, en plus de la confrontation à d'autres artistes, ça qui est extrêmement riche et merveilleuse, bon, il y a une respiration financière évidente qui permet de continuer. Voilà.
Et vous, Valérie, votre rapport à la littérature maintenant, quand vous lisez des livres, est-ce que vous voyez des images en sortir?
Non, pas toujours, ça dépend.
Ouais.
Bah, là, c'est vraiment les deux livres que j'ai adaptés. L'amour et les forêts, c'est un livre que j'ai lu alors que j'étais en tournage de Marguerite et Julien, que j'ai adapté très longtemps après. Et j'ai vu le potentiel de thriller comme ça qu'il y avait dans le livre. Et je me suis dit, oh là là, ça va être génial à faire et tout. Et puis le livre de Franck, je l'ai lu vraiment dans l'idée de me dire, est-ce que ce que dit Pauline est vrai? Est-ce que je vais m'y retrouver et avoir envie de l'adapter? Et en fait, oui, c'est arrivé tout de suite. Après, il y a des livres que je lis, j'ai pas du tout envie de les adapter et que j'adore et tout ça. Triste Tigre, par exemple, pour moi, c'est un livre que je n'adapterai pas au cinéma parce que je trouve qu'on ne peut pas faire mieux. Et que c'est pas...
Comment ça? Tu veux dire que tu peux faire mieux que mon livre?
Non, mais ce que je veux dire... ce que je veux dire, c'est pas... On ne peut pas faire mieux dans le sens où... non, mais dans le sens où le livre est tellement puissant.
C'est une blague,
de
Valérie.
Ce qu'il dit. Ah, mais du coup, je vais... pardon, j'ai l'impression d'avoir gaffé...
Mais non.
Bon bref, en tout cas, non, pas tout le temps. Voilà, il y a des livres qu'on a envie d'adapter, il y en a qu'on n'a pas envie d'adapter, ou qu'on trouve pas forcément utile d'adapter. Ouais. Et c'est vrai que, évidemment, le livre de Franck m'a parlé parce que je me suis complètement identifiée à lui. Et Paul Marquet, c'est un peu mon double, en fait. Je me cache derrière lui.
En plus, il y a pour le coup, sérieusement, il y a des secteurs de l'histoire que Valérie a amélioré. Comme par exemple le fait que ça soit un père et pas une mère,
je trouve que
l'enjeu est beaucoup plus intéressant. Je suis un peu jaloux, si j'y avais pensé, je pense que je l'aurais fait.
Et vous aviez pensé aussi à rencontrer une femme et à coucher avec elle?
Non, j'ai rencontré des femmes et j'ai pensé coucher avec elles, mais je n'ai jamais pensé l'écrire.
L'écrire, c'est ça.
Et je ne l'ai pas vécu.
Pourquoi filmer alors, Valérie? Pourquoi filmer ça?
Parce que je trouve ça magnifique, d'abord, que de mettre en scène un personnage masculin qui n'est pas là où tout le monde l'attend, c'est-à-dire un homme blanc puissant qui gagne de l'argent. Et ça raconte son impuissance aussi, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans ces questions-là, il n'y arrive même pas. Et cette scène, moi, quand j'ai vu cette scène, j'ai eu envie de rajouter ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai complètement inventé.
Et en plus, c'est Claude Perron qui la joue.
Et en plus, c'est Claude Perron qui est
très
une actrice
grande,
magnifique.
Très grande actrice.
Qui la joue et qui est absolument renversante. Et c'est l'extrême solitude qui se rencontre.
Et ça synthétise d'autres, plusieurs scènes du livre. Et ça synthétise cette impuissance que moi, je décris aussi. Cette frustration. Et là, c'est synthétisé en une seule scène. Et c'est pour ça que moi, j'étais d'accord.
C'est ça le cinéma, Franck Cortès.
C'est
à ça que ça sert aussi. Le film s'appelle À pied d'œuvre, il sort mercredi prochain. On va vous écouter, Valérie, un petit extrait de ce livre avant de retrouver Sam Sauvage.
Ce qu'il y a de beau, c'est la sincérité avec laquelle on croit à ce qu'on imagine. Même ceux qui prétendent ne croire en rien, dans le noir, ils ont peur de quelque chose qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'imaginer. On imagine beaucoup au fond. Tant qu'il y aura de la place pour l'imagination, il y aura des dieux, des artistes et des monstres dans le noir.
Pas vu venir. Accordez-nous une seconde avant d'atterrir. La nuit nous guette. Elle regarde danser muette. On est jeunes, ils sont bêtes. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pub, on sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est pas moi qui le dis. À nous les tragédies, t'entends cette mélodie. Regarde devant, au-dessus des incendies, le ciel qui nous sourit. Et tous ensemble on crie. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pub, on sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde.
France Inter, on aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
C'est sans doute le plus beau film de Paolo Sorrentino, oui, depuis La Grande Bellezza. La Grazia, moins baroque, plus grave, plus fluide, un film de douceur politique, dit son auteur, bel oxymore pour raconter les derniers mois au pouvoir d'un président de la République italienne, Mariano De Santis, qui doit, avant de quitter ses fonctions, signer un projet de loi sur l'euthanasie et réfléchir sur deux grâces présidentielles, le pouvoir et le doute, l'humanité et l'humilité d'un immense acteur pour l'incarner, Tony Cervello, nous l'avons rencontré.
Reste le fait que tu sois un grand président de la République.
Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà?
Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi.
Se non firmo, sono un torturatore. Se firmo, sono un assassino.
Il tuo mandato sta per finire, papà. Quando è che prenderai le tue decisioni?
Il fallait sentir, dit Sorrentino, à la fois la stature d'un président et l'homme avec sa douleur, sa solitude, sa fragilité. Mais c'est un sacré défi d'incarner à la fois le pouvoir et la fragilité. Comment faites-vous, Tony?
C'était la chose la plus impégnative.
La chose qui m'a demandé le plus d'efforts parce que je sentais très fortement la responsabilité dès le premier cadrage. Et pour moi, je voulais absolument être crédible comme chef de l'État pour un spectateur. Parce qu'il y a tellement de parodies, de politiques, la satire sur les politiques. Moi, je voulais réussir à montrer la sacralité de la tâche politique, de la sacralité d'une tâche aussi importante d'un point de vue institutionnel. C'était très important pour moi. Et en même temps, plus de cette sacralité, cette sobriété du comportement et à cet aspect moral, je voulais vous montrer la fragilité qui appartient à chacun d'entre nous. Et c'était la chose qui m'a demandé le plus d'efforts. En revanche, la responsabilité majeure que j'ai entendue, c'était surtout d'être crédible comme homme d'État. Parce que très souvent, l'idée que le public a des politiciens est une idée qui ce sont des cabotins, qui se mettent trop souvent en spectacle et ne s'approchent plus de la politique comme quelque chose de très très sérieux.
D'autant que votre rôle est presque muet, hein, et que vous ne parlez pas beaucoup dans le film, donc beaucoup de choses doivent s'exprimer sur votre visage. Sorrentino adore votre visage, il le fait apparaître en gros plan, comme s'il était face caméra. Votre visage, c'est le héros de ce film. Il faut que tout passe par ce visage.
Io non so se è innamorato del mio.
Je ne sais pas s'il est amoureux de mon visage. Je pense qu'il est amoureux du visage du personnage, ça c'est sûr. Mais je savais qu'il allait consacrer beaucoup de premiers plans au personnage parce que c'était. Il fallait qu'il soit éloquent, l'expression de ce visage. Parce qu'à travers les expressions des silencieux de ce visage, il essayait d'approcher son cœur, la sincérité du cœur du personnage, de l'éloigner du cirque des personnages politiques qu'il manège, qui sont toujours un peu des histrions, qui vont dans les shows de télévisuels, qui sont à la radio, les journaux, les conférences de presse, etc. Mon engagement sur le tournage a été d'être très très concentré sur ce visage pour qu'il puisse le capturer.
Il y a une très belle scène dans ce film où vous suivez, il y a plein de belles scènes, mais où vous suivez l'alarme du cosmonaute depuis un écran en apesanteur.
En apesanteur.
Est-ce que je me trompe, mais je ne vous ai jamais vu pleurer au cinéma?
C'est vrai. J'ai eu peu d'occasions de pleurer dans les films. En tout cas, jamais dans les films de Sorrentino. Alors, je dois confesser que dans ma vie privée, j'ai beaucoup de difficultés à pleurer.
Et ça,
c'est quelque chose que je dis avec un grand déplaisir, parce que je pense que les pleurs sont libérateurs. De rares occasions où je suis parvenu à m'abandonner à des larmes libératrices. Ça me mettrait en difficulté si je devais pleurer dans une scène. Je pense que ça serait un gros effort pour moi, parce que dans mon expérience privée, je n'ai pas de souvenir où je me suis vraiment j'ai pleuré avec bonheur. Pas parce que je suis insensible, je serais juste à sortir une petite larme.
C'est quoi votre définition de la grâce par rapport à ce film?
Guardi, io riterei già un grande risultato se.
Je pense qu'on aurait un grand résultat si le public, en voyant ce film, percevait qu'une définition très simple de la grâce, l'opportunité dans ce monde de rester humain.
C'est pas mal comme définition, ça correspond assez bien à votre état d'esprit aussi, Franck Courtat. C'était Tony Servillo dans ce très beau film qui s'appelle La Gradia de Paolo Sorrentino. Sinon, les autres sorties, Laurent, on va commencer par Gourou de Yann Gozlan. Matt est le coach en développement personnel le plus suivi en France. Il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu'elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s'engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie. Le sujet pouvait être intéressant, raconter une époque, la nôtre, sauf qu'il il rejoint un peu la caricature dans les rebondissements très discutables. Et on n'a pas dit que c'était Pierre Niney, bien sûr.
Oui, oh ben oui,
on le sait. On le sait, non.
Donc,
il faudrait vivre dans une cave, là, je crois, pour eux.
C'est un troisième volet entamé avec Un homme idéal, puis Boîte noire, et maintenant ce gourou. Alors, c'est pas faute de travailler une thématique intéressante, hein, celle d'un homme en proie avec, globalement, la paranoïa. À chaque fois, le héros s'appelle d'ailleurs Mathieu Vasseur, au cas où on n'aurait pas compris qu'il était qu'on parlait de la même chose. Et à chaque fois, il est effectivement joué par Pierre Niney, au cas où on n'aurait pas compris que c'était la même chose. Voilà pour le contexte. Et cette fois, le duo s'attaque à la culture 2.0. Effectivement, ces figures charismatiques et dévorantes. J'avoue que cette satire du développement personnel s'avère à mes yeux lourdingue, attendue, décevante. Ce devrait être inquiétant et ça nous laisse profondément de marbre. C'est une espèce de pudding ou de couscous assez indigeste.
122 000 entrées le premier jour, un truc de dingue. Ouais. La Reconquista, c'est un film de 2016 du cinéaste espagnol Jonas Trueba et inédit chez nous. En une seule nuit, les retrouvailles de Manuela et Olmo, amoureux adolescents et désormais trentenaires, au milieu un flashback du temps de leurs 15 ans. La profondeur d'une écriture dans une mise en scène si délicate pour raconter la complexité du sentiment amoureux, Laurent.
Oui, alors 10 ans, il aurait fallu attendre une décennie entière pour découvrir et s'enflammer devant cette pépite. Nul mirerie dans cette Reconquista aux allures plutôt mélancoliques. À l'aune de tout ce qui sépare désormais ces deux anciens lycéens amoureux, elle est partie à l'étranger, il vit en Espagne, au même endroit, il est en couple, elle est seule, elle se déplace déplace à pied, lui en scooter, et surtout, elle est plutôt déterminée, et ben lui, il n'est qu'hésitation. Ces deux-là passent leur machine, leur amour à la machine, comme disait un peu Souchon. Résultat, un petit miracle de subtilité, avec une tonalité, oui, je disais, mélancolique permanente, un film entre le temps retrouvé et le temps qui passe. Dernier petit conseil, un conseil de lecture pour aller avec le film, les éditions de L'Œil publient un très bel ouvrage sur le cinéma de Jonas Trouéba. Ah, le oui. Cinéma, c'est vivre trois fois plus. C'est aux éditions de L'Œil.
Nuremberg de James Vanderbilt avec Russell Crowe et Rami Malek. 1945, il est temps d'instruire le procès du régime nazi à Nuremberg. Le psychiatre américain Douglas Kelley doit évaluer la santé mentale des dignitaires du Troisième Reich face au manipulateur Hermann Göring. Il se retrouve pris dans un rapport de force. Alors oui, c'est un sujet passionnant, complexe, mais qui méritait quand même plus de subtilité et moins de didactisme, Laurent.
Bah oui, c'est quand même le procès de Nuremberg, c'est quand même évidemment quelque chose qui continue d'ailleurs à infuser à beaucoup de points de vue, et on a du mal avec cette novélisation très très hollywoodienne du réel. Les personnages ont existé, évidemment, et on est quand même bien loin, j'ai repensé du film de Stanley Kramer, Jugement à Nuremberg, qui oui. date de 1961. On est surtout loin, effectivement, des enjeux profonds de ce procès historique. C'est un non-lieu pour un non-film, peut-être.
Oula. Promis le ciel de la réalisatrice tunisienne Erige Seiri, avec Aïssa Maïga, Déborah Christelle Lobnanet et Laetitia Ki, trois Ivoiriennes à Tunis. Elle, Marie, pasteur et ancienne journaliste, elle héberge Nanet, une jeune mère en quête d'un avenir meilleur, et Jolie, une étudiante. Quand les trois femmes recueillent Kenza, 4 ans, rescapée d'un naufrage, leur refuge se transforme en famille recomposée. La migration subsaharienne au Maghreb, c'est un sujet rare au cinéma, traité, moi je trouve, avec subtilité, délicatesse, et le tragique, certes, n'est pas oublié, mais aussi la douceur et même l'humour au milieu, et une incroyable actrice, Déborah Lo Nanet, la femme satellite de ce film. Le film, d'ailleurs, aurait pu complètement tourner autour d'elle seule.
Oui, alors moi j'avais tellement aimé l'état de grâce qui flottait sur le premier film de cette réalisatrice franco-tunisienne et qui s'appelait Sous les figuiers. Et j'avoue que là, l'excès un peu quand même de didactisme m'a gêné à force. Tout semble aller de soi, à l'instar par exemple d'une spiritualité militante qui n'est jamais discutée. Moi ça me pose un petit problème. On peut être légitimement mal à l'aise avec ce choix, comme si la réalisatrice s'était totalement effacée devant certains de ces enjeux.
En tout cas, moi, j'ai beaucoup ressenti de choses et compris de choses par rapport à ces femmes-là à Tunis. Mmh. La vie après Siam, c'est un documentaire de Namir Abdelmessi. Namir et sa mère s'étaient jurés de refaire un film ensemble. D'ailleurs, c'est difficile d'oublier la mère de ce réalisateur dans La Vierge, les Coptes et moi. Donc, ce film ensemble, ils ne le font pas puisqu'elle est morte en 2015. 10 ans après, il lui rend hommage et plonge dans l'histoire romanesque de sa famille et en même temps, dans le cinéma égyptien.
Oui, alors vraiment, on avait énormément aimé La Vierge, les Coptes et moi, hein, et ce rapport mère-fils y était effectivement magnifiquement traité. Alors, le décès de sa mère fait que le second film est impossible, mais le réalisateur ne renonce pas pour autant à la faire revivre, en quelque sorte en convoquant par exemple, je crois très très beau, les extraits des films féministes égyptiens de la grande époque. Résultat, c'est un vrai faux film de famille exemplaire qui dépasse le simple hommage d'un fils à sa mère pour parvenir au portrait d'une femme singulière, digne, presque héroïque, et il en fait une figure de cinéma.
Un autre documentaire signé Olivier Azam et Daniel Mermet, Howard Zinn, une histoire populaire américaine, 2. 10 ans après le premier volet, ils reviennent sur les pensées donc de Howard Zinn, historien américain de gauche et déconstructeur des mythes fondateurs de l'Amérique. Ça commence avec cette phrase en exergue, « Tant que les lapins n'ont pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. »
Voilà, autrement dit, c'est le point de vue des dominés, non plus des dominants. Ils s'intéressent aux Amérindiens, aux esclaves, aux femmes, aux minorités ethniques, aux opprimés d'une façon générale. C'est le propos principal de ce second volet qui sera suivi d'un troisième, à la hauteur du livre dont il est issu, hein, de Howard Zinn, qui est décédé en 2010, mais qui a quand même vendu 2 600 000 exemplaires aux États-Unis, c'est pas mal. on peut peut-être reprocher à ce deuxième volet de s'intéresser trop rapidement à l'Amérique actuelle, bizarrement. Voilà. Alors, on voit bien que tout ce que véhicule, ceci dit, le film, est aussi une façon de lire ce qui est en train de se passer aux États-Unis.
Bézanville, on l'a reçu la semaine dernière, Martin Jova, son deuxième film, cette comédie très drôle avec Emmanuel Berco, Michel Hazanavicius, William Lebgill, entre autres.
HL.
Et on termine. Oui, HL.
Dans le 7-7.
On termine par un super film qui est en reprise, c'est Naked de Mike Leigh, la logorée de Johnny, vagabond, flamboyant et cynique. C'était David Tiolis.
Oui, prix de la mise en scène à Cannes en 1993, tout simplement. C'est effectivement la galère d'un jeune paumé londonien. Ou en couleur, on va dire.
Et on n'oublie pas la très regrettée dans ce film Catherine Cartledge. Un festival avant les cadeaux, Laurent.
Oui, Ciné Junior, c'est la 36e édition de ce festival qui, comme son nom l'indique, s'intéresse donc au public jeune du 4 au 15 février dans 63 cinémas du Val-de-Marne et d'Île-de-France, c'est pas mal. Hein. La thématique de cette édition, l'audace, magnifique. Programmation adaptée aux différents âges, 3, 5, 7 et 11 ans. Plus de 100 films et courts-métrages en compétition, un ciné-concert, etc., etc. Donc il faut vraiment aller tester cette nouvelle édition de Ciné Junior.
Il nous reste un peu de temps pour les cadeaux.
Tant mieux. Pour vous, Valérie Donzelli, on a pensé à ce film Nino de Pauline Loquès. Est-ce que vous l'avez vu ?
Alors non seulement je l'ai vu, mais en plus je suis très fière parce que j'ai été au CNC à l'avance sur recette des premiers films et je me suis battue avec mes collègues pour que...
Nous ne savions pas que vous étiez
elle
un peu à l'origine du film.
Elle a eu l'avance sur recette. Ouais. Donc non seulement j'ai lu le scénario et je suis évidemment allée voir le film au cinéma. Et
c'est Jour de fête qu'il édite avec notamment d'ailleurs en plus en bonus un court-métrage de Pauline Loquès.
Ouais, que j'ai vu aussi.
Et Théodore Pellerin est nominé pour Les Espoirs. Mais bon, nous on aime aussi beaucoup Guillaume Marbeck hein, qui joue Godard dans Nouvelle Vague, il est génial.
Hein. Bah, Guillaume Marbeck,
attention,
ils
à vos
sont
votes
tous,
là.
Non mais ça
à
va être
votes.
Très dur.
Ouais, ça va être très compliqué.
Pour vous, Franck Courtès, est-ce que vous avez vu le dernier film de Paul Thomas Anderson ? Peut-être pas encore.
Non.
Ça s'appelle Une bataille après l'autre. On
ah,
en
mais
parle pas mal. Voilà. 2025, c'est chez Warner, une belle édition Blu-ray DVD. Voilà, avec un casting d'enfer et surtout une vision de l'Amérique actuelle qui est évidemment assez passionnant. Je dis aussi que le dernier numéro de Positif contient un très beau dossier sur Paul Thomas Anderson, au passage. Voilà.
Merci.
Et signaler que À pied d'œuvre a reçu le Lion d'or du scénario à Venise.
Tout à fait.
Pas mal.
Du film que j'ai écrit donc avec Gilles Marchand.
Voilà, merci de le citer.
Qui est aussi nommé au César pour Dossier 135.
Ah voilà, très très bien.
Et le livre de Franck Courtès est disponible en poche chez Folio. Ça lui fait toujours combien par exemplaire ?
Je crois
0,40 centimes.
Ouais, à peu près. Hein, oui, oui.
À vos porte-monnaies.
Merci à Michael Simon, merci à Valérie Aestaray pour la réalisation, Benjamin Ducy pour la préparation, Olivier Rioux pour la programmation musicale et ce matin aux manettes, le grand Théo de Lobadère.
Oui.
Au revoir.
Salut.
Merci.
C'était
merci.
On aura tout vu sur France Inter.